L'année 2014,
la culture joue un rôle très particulier.
Vu par la culture. Culture.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire?
On domine par la culture, on résiste par la culture.
L'ultime reportage, c'est le film de fiction. Hein. En fait, on est tous acteurs.
Oui, c'est de la fiction ce soir, le rendez-vous spécial Forum, l'année vue par la culture. Diffusion de la troisième table ronde enregistrée en public à l'auditorium du musée d'Orsay le samedi 6 décembre. Il sera question de biopic, de biographie romancée, de littérature documentaire et même d'exofiction. Tout de suite, direction le musée d'Orsay pour y retrouver nos invités. Cette table ronde aura pour titre « Culture, de point, le réel a-t-il dépassé la fiction ?» Avec tout de suite à mes côtés Frédéric Becbédé, écrivain, critique littéraire, cinéaste, directeur de la rédaction du magazine Lui, auteur dernièrement de Una et Salinger chez Grasset, le roman de la passion, au début des années 40 entre Jerry Salinger et Una O'Neill, la fille du grand dramaturge américain et future Madame Chaplin. À ses côtés,
Joyce Ormond, écrivaine, auteur de différents récits documentaires comme Paris Gare du Nord, et vous avez dernièrement signé deux romans, Comme une bête, une fiction documentée entre autres, sur le métier de boucher, et La peau de l'ours, qui était une sorte de conte animalier ou l'histoire d'une bête, mi-homme, mi-ours, chez Gallimard. Et à vos côtés, Cédric Kahn, cinéaste. Vous venez de signer La vie sauvage d'après le fait divers qui avait vu un père de famille emmener ses enfants dans la clandestinité, loin de leur mère, pour une vie supposée meilleure. C'est votre deuxième incursion dans le fait divers, puisque vous aviez déjà signé Roberto Succo en 2011 sur le parcours du tueur en série italien.
Alors, on vous a réunis tous les trois autour de cette question parce que donc le réel a-t-il dépassé la fiction? Parce qu'on assiste, on a le sentiment depuis quelques années, ça s'est radicalisé cette année avec à plusieurs phénomènes. Au cinéma, par exemple, l'inflation parallèle des documentaires et des biopics. En littérature, la multiplication des récits ou romans biographiques, le vôtre par exemple, Frédéric Becbédé, mais aussi Simon Liberatiste et il y a deux ans sur Jane Mansfield ou encore Les Limonov, encore plus loin d'Emmanuel Carrère. Des biopics. Deux Saint-Laurent, un Claude François, un Carlos, deux Chanel, des faits divers au cinéma, donc Cédric Kahn, La vie sauvage, des fictions documentées ou des récits documentaires, on pense à vous Joyce Ormond, Paris Gare du Nord ou le roman Comme une bête. Alors il y a plusieurs façons d'entendre cette problématique, le réel dépasse la fiction. Je me demandais, avant même véritablement d'entrer dans le débat, comment vous l'aviez compris chacun à votre tour. Frédéric Becbédé.
Je pense que c'est peut-être un problème de curiosité en ce qui me concerne, c'est-à-dire que j'ai plus de curiosité pour les histoires vraies. Je ne suis pas fier de ça. C'est du voyeurisme probablement, c'est une infirmité, du mal à croire à des choses imaginaires complètement fictives. Et en même temps, c'est bizarre parce que j'ai commencé quand j'étais adolescent par lire de la science-fiction et c'était la science-fiction qui m'a amené à la lecture et au goût pour la littérature. Donc peut-être que j'en ai eu marre à un moment des mondes complètement imaginaires et que j'ai eu envie d'abord de parler de moi. C'est vrai qu'au départ j'ai fait beaucoup de livres autobiographiques et puis ensuite de m'intéresser aux histoires des autres. Cela dit, je pense que mes camarades vont être peut-être en désaccord, je ne sais pas, mais je pense qu'on n'invente jamais rien et que de toute façon, même une œuvre complètement fictive est toujours un résultat de la mémoire et de l'intimité de l'auteur.
Sûrement, vous, comment vous avez compris cet énoncé?
D'abord, je tiens à dire qu'en fait, je suis d'accord avec Frédéric. Et je pense qu'on n'invente rien dans la mesure où le réel est toujours la planche d'appel de la fiction, c'est-à-dire que c'est comme un plongeoir au-dessus d'une piscine, on prend toujours son élan sur cette planche-là. Moi, j'aurais tendance, pas par mauvais esprit ou pour vouloir faire une disserte en trois parties, mais j'aurais tendance à tout de suite quand même renverser l'énoncé en disant que c'est évidemment la fiction qui dépasse le réel, puisque le réel n'est que cette planche d'appel et qu'il me semble que je ne vais pas dire le but de la fiction, mais en tout cas son espèce de ligne d'horizon, c'est précisément de transcender le réel. Alors quand je dis transcender, ce n'est pas dans une perspective mystique, mais c'est l'idée de plutôt métamorphoser ce réel, le métaboliser pour faire de ce réel une vie en fait. On pourrait en parler des heures, ne serait-ce que sur la définition de réel et de vie. Mais moi j'ai l'impression que ce que fait la fiction, c'est de prendre le réel pour le transformer en une vie, et que la question du roman, la question de la littérature, c'est pas la question du réel, en fait, c'est la question de la vie. C'est à partir de ce matériau qu'est le réel, comment est-ce que je fais surgir pas forcément des vies au sens de biographie ou trajectoire de personnages, mais au sens du sentiment du réel, d'émotion du réel, de ce que ça implique quand c'est métabolisé par un corps, d'abord le corps de l'auteur et puis le corps du lecteur, etc. Donc je renverse et je passe de réel à vie.
Cédric Kahn, est-ce que vous allez renverser ou inverser ?
Est-ce que j'ai compris la question ?
Ouais.
Pas vraiment, en fait. Pour moi, presque par définition, le réel dépasse la fiction. Enfin, c'est un préalable, en fait. Mais effectivement, je comprends qu'on attende de la fiction qu'elle le dépasse à nouveau, enfin, qu'elle le sublime, en tout cas. Mais c'est un vrai défi, parce que je trouve que finalement, le réel est toujours... plus fort, il est plus réel. Quoi.
Une farine.
Au-delà de la question donc, du cinéma et de la littérature, on va y revenir bien évidemment, mais est-ce que cette concentration, c'est-à-dire cette façon qu'ont les auteurs et les cinéastes de travailler le réel comme matériau, est-ce que ça dirait aussi quelque chose de l'époque ?
Peut-être que c'est peut-être une conséquence de la multiplication des modes d'expression. Tout simplement, il y a tellement de différentes manières de parler, de raconter des histoires. Il y a les séries télé, il y a le cinéma, il y a le jeu vidéo. Ça fait que maintenant, les écrivains sont un peu en concurrence avec d'autres modes d'expression. Et peut-être que du coup, le roman, on se dit que peut-être, c'est plus passionnant d'explorer la réalité, que ça va toucher davantage, peut-être que c'est... Je ne dis pas que les auteurs obéissent au public, mais souvent quand même, on a envie d'écrire le livre qu'on veut lire. Et moi, dans mon cas, c'est vrai que j'avais une curiosité, par exemple, pour cette histoire d'amour complètement foirée entre Salinger et Una. J'avais envie de le lire, tout bêtement. Et évidemment, en écrivant ça, bien sûr, je suis d'accord avec Joy, évidemment, comme on ne sait rien sur cette histoire, tout est plus ou moins inventé, en fait. Donc c'est assez drôle comme tricherie. Ce qui est intéressant, au fond, c'est d'imaginer de mettre de la vie dans une histoire dont on ne sait pas grand-chose. Et à ce moment-là, on a recours aux mêmes techniques que quand il s'agit d'imaginer qu'on est un ours. Je suppose que ce n'est pas tellement différent.
Mais sûrement, comment vous comprenez justement cette inflation de biographie romancée ou de récits documentaires actuellement, depuis une petite dizaine d'années ?
Justement, je trouve qu'il y a un lien très fort entre la littérature documentaire et l'autofiction, et qu'évidemment, l'autofiction, qui est un genre qui, moi, me passionne, est une manière de se documenter soi-même. Donc, je trouve que précisément, la rencontre de l'autofiction, ou plutôt de la fiction de soi et du documentaire, est très fertile. Après, je pense que ça se discute, cette idée d'inflation des récits documentaires. Enfin, ce que je vais dire est banal, mais en même temps, quand on lit Zola, on voit bien que c'est de la fiction documentaire et que le rapport de l'écrivain au contemporain et aux documents et aux matériaux, dans ce qu'il a de plus prosaïque, c'est pas une nouveauté. Après, on voit beaucoup de littérature documentaire depuis quelques années dans une nouvelle génération d'auteurs.
Exactement, ouais.
Je remarque aussi. Comment ?
La vôtre en particulier, enfin, vous êtes
oui,
vraiment de cette génération.
Oui, je remarque en plus que c'est un genre qui est assez prisé par les femmes, par les romancières.
Malice de Caringal.
Malice de Caringal, Olivia Rosenthal, entre autres. Je ne dirais pas que c'est une réaction à quelque chose. J'ai plutôt l'impression, là Frédéric parlait de la multiplicité des voies d'expression, des modes de fiction, etc. Moi j'ai l'impression que c'est aussi une dissolution du roman qui me plaît, c'est-à-dire qu'il y a un éclatement de ce qu'est ce genre, le roman, en une multiplicité de sous-ensembles, justement que ce soit l'autofiction, que ce soit le récit documentaire, que ce soit... Même quand Florence Aubenas publie Le Quai de Ouistreham, ou en France, là, celui qui vient de sortir, c'est différent parce que c'est le recueil d'articles du Monde, mais quand elle publie Le Quai de Ouistreham, où elle raconte son immersion avec les femmes de chambre, bon, c'est reçu aussi comme de la littérature. Donc, et presque comme du romantaire, qu'il y a une espèce de délitement de ce genre roman qui n'est plus assigné seulement à la fiction d'imagination, au récit, et que ce genre roman, il est bouffé de tous les côtés par le récit d'une immersion dans un milieu professionnel, par de l'autofiction, par du reportage. Ce genre qui était un peu écrasant, pour moi, est en train de proliférer de l'intérieur. Je vois plutôt ça comme nouveauté, en fait.
Comment vous comprenez, puisque vous venez de le pointer vous-même, que ce soit pris en charge plutôt par des femmes ?
Juste avant qu'elle réponde, oui. Je trouve qu'il y a une grande exigence de vérité des consommateurs, en tout cas. Et même au-delà de la consommation culturelle, parce qu'on voit même dans le traitement de la politique, tout ça, on veut tout savoir tout le temps de tout et de tout le monde. Donc je pense que c'est très difficile maintenant de raconter des histoires qui n'ont pas l'air vraies, en tout cas. Je pense que même si on est dans la fiction et dans l'invention, il faut refabriquer de la réalité, en tout cas.
Vous avez l'impression, par exemple, que sur un écran de cinéma, quand il y a marqué « d'après une histoire vraie », c'est quelque chose en plus.
C'est quelque chose en plus, mais c'est aussi une exigence supplémentaire de la part de celui qui va regarder. C'est-à-dire que, du coup, on ne peut pas raconter des choses fausses, alors qu'on le fait tout le temps, parce qu'on refictionne toujours à l'intérieur d'un fait réel, mais il faut que c'est l'air vrai, quoi. Il faut faire apparaître de la vérité. D'ailleurs, on pourra parler de la différence entre vérité et réalité, mais je crois que c'est l'exigence de vérité, en fait, surtout, de la part des gens qui lisent et qui regardent les films.
Et d'émotion. Et peut-être que l'émotion vient de la vérité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis moins touché quand des hobbits doivent courir après un anneau ou un dragon, et plus touché quand, effectivement, on raconte une histoire dont je sais qu'elle a existé. Mais une fois de plus, je ne suis pas très fier de ça.
Pourquoi vous n'êtes pas très fier de ça ?
Parce que je crois que ça participe de quelque chose qui est un peu malsain, qui est de besoin de vérité, d'authenticité, de naturalisme, enfin, et qui n'est. Voilà, j'aimerais être capable, après tout, d'aimer Harry Potter comme tout le monde.
On est dans une société beaucoup plus voyeuriste. Et c'est vrai que même les politiques, finalement, on se rend compte qu'ils inventent des histoires, ce qu'ils appellent le telling story.
Storytelling, oui.
Storytelling, voilà. Pour nous faire croire à une forme de vérité. Et que c'est cette vérité-là qui va nous toucher. C'est comme si on voulait toucher les gens par la vérité. Et l'autofiction, c'est le même fonctionnement, en fait. On pourrait raconter la même histoire sans dire que c'est de l'autofiction.
Alors, sur les femmes qui prenaient en charge ce récit documentaire...
J'espérais, en fait, échapper à cette question et passer sur celle-là. Non, je voulais juste... Je promets que je vais répondre, mais je voulais juste rebondir là-dessus. Moi, je suis très aussi preneuse de récits inspirés de la vie réelle, etc. Et en même temps, quand je vais au cinéma, par exemple, et que je vois au générique inspiré de faits réels, il y a quelque chose qui parfois me gêne un peu, même si le film a pu me plaire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une petite prime morale. Voilà, ce supplément d'âme morale lié à justement au réel auquel on serait fidèle, à la vérité, cette prime morale, je la trouve un peu suspecte parfois. Voilà. Il y a quand même l'idée d'une supériorité morale de ce qui serait inspiré du réel, et je pense qu'on pourrait le questionner. Alors pour répondre, c'est assez casse-gueule comme question, mais je vais avancer des hypothèses, hein, parce que je n'ai pas de réponse absolument certaine. Mais si on pense en termes de superstructure ou en termes d'histoire, et qu'on constate que la libération des femmes est un mouvement historique très récent, et que l'apparition de femmes dans la littérature est quelque chose de très récent, on pourrait imaginer que les femmes ayant été pendant des siècles enfermées, assignées précisément à l'intime, au récit de soi, au domestique, à l'intériorité, au tourment de l'âme et du cœur, qu'elles ont été empêchées de prendre en charge précisément le fracas du monde, elles aient peut-être ce mouvement apparaissant comme ça dans le champ littéraire, même si ça date pas des années 2000, mais... qu'elles aient ce mouvement comme pour rattraper le temps passé ou comme pour acter plus fortement leur présence, de faire une littérature du réel qui serait une espèce de revanche sur le silence et l'enfermement imposé pendant des siècles.
C'est-à-dire cette littérature du réel aurait été pour vous, par exemple, le moyen de sortir de vous-même, sortir de votre milieu ?
Ah oui, alors pour moi, c'est très clair. Mais pour moi, je dirais qu'il y a un double mouvement, être à la fois une femme... et être une bourgeoise, ce qui est le cas quand même. Je pense que c'est une question de sexe et de classe sociale. Beaucoup d'écrivains sont des bourgeois, et ça n'est pas anodin. Donc, pour moi, écrire est précisément sortir de mon genre, c'est-à-dire m'identifiant à un ours ou m'identifiant à Joe Starr dans un livre que j'ai fait, me mettant dans la peau d'un ours ou dans la peau de Joe Starr dans un livre que j'ai écrit sur... c'est un peu le
ce
même
qui est pas complètement
genre.
Opposé.
Voilà. Je suis même sûr que vous alliez vous glisser.
Disons que ce sont deux expériences de la virilité assez radicales. Je tâche à la fois de m'arracher à mon identité de genre et de m'arracher aussi, très modestement, hein, mais voilà, au moins en imagination, à mon milieu social. Et quand je fais aussi un livre sur les bouchers, c'est un peu pour moi ce même geste, quoi. Ou quand je vais à la gare du Nord, il y a l'idée de se décentrer. Et pourtant, moi aussi, j'ai commencé par l'autofiction. Mon premier roman était une œuvre d'autofiction. Mais c'est marrant parce que 10 ans après, je sais que je ne pourrais plus faire ça et que écrire m'a emmené en fait ailleurs.
Comme si l'autofiction était plutôt réservée, presque, j'allais dire, à une revanche sociale, même si le terme est un peu fort. Je pense à des écrivains comme Annie Ernaux ou Christine Angot, qui, à la base, ne sont pas des bourgeoises.
Peut-être, effectivement, que l'autofiction, que c'est la même opération de décentrement de soi, mais pour certaines, c'est dans sa propre transformation intérieure, et que pour d'autres, ça passe par une extériorité. Mais c'est vrai que, finalement, c'est toujours une histoire de mise en scène d'une altérité, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, Annie Ernaux, dans l'espèce de manière qu'elle a d'expier son arrachement à son milieu originel, met en scène l'altérité qui la traverse. Et peut-être que quand moi je parle de la puissance érotique que peut provoquer l'animal ou la musique sur moi, je parle aussi d'une altérité.
Frédéric Becbédé. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre ?
Mais c'est-à-dire que je suis toujours... j'aime beaucoup faire des généralités moi-même, dire les femmes sont ceci, les hommes sont cela, mais en même temps, je sais que c'est toujours un peu risqué. Cela dit, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des tas d'exceptions à ça, des tas d'écrivains qui sont des femmes et qui ont fait des choses, enfin, qui sont peut-être des choses personnelles, mais qui étaient des fictions. Françoise Sagan, j'en sais rien. Même J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. C'est peut-être autobiographique, mais vraiment assez d'une manière
déguisée. Ouais.
Non, je ne sais pas. Je crois que... enfin, si je peux parler que... Moi, je peux parler de mon expérience. Ce sont mes lectures qui m'ont amené à l'envie de cette curiosité de à la fois dire je et en même temps regarder des milieux sociaux, enfin, des mondes professionnels comme dans 99 francs ou de m'imaginer que je suis dans une des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. C'est des lectures américaines, c'est-à-dire le nouveau journalisme, le gonzo journalisme. Et puis aussi une femme qui s'appelle Joanne Didion, et qui a fait des sublimes reportages qui faisaient un peu ce que fait Florence Aubenas, hein, qui a raconté l'Amérique d'une manière très, très, très intime.
Qui aura influencé des gens jusqu'à Bretton Woods, par exemple.
Bien sûr. Donc, on est le fruit, pas seulement de notre expérience, mais beaucoup de nos lectures. Je crois que vraiment, en ce qui me concerne, chaque fois que j'écris, je suis complètement influencé par tout ce que j'ai lu et... Donc, il me semble que c'est vrai, on est à un tournant parce que on ne sait plus très bien si les livres vont continuer d'exister dans une dizaine d'années. Donc, le roman, on se demande, chaque fois que je commence un livre, je me demande à quoi il sert, à quoi ça sert et si ça a encore un sens. Donc, c'est pour ça probablement qu'on est obligé de théoriser, de réfléchir. Pourquoi est-ce que j'écris ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de raconter une histoire ? Et si je raconte une histoire, laquelle ? Est-ce que. Voilà, moi, il se trouve que j'ai. Je ressens. Que si je raconte, que si j'invente quelque chose, je ne vais pas avoir le talent suffisant pour rendre ça intéressant. Et que c'est assez humiliant, mais c'est comme ça. Je suis persuadé que si je regarde autour de moi, mon époque, il y a suffisamment d'histoires dingues pour ne pas avoir à en inventer une de plus.
Cédric Kahn, c'est ce qui vous anime aussi ? Je n'ai pas l'impression, parce que vous avez les deux terrains, en fait.
Oui, mais moi je pense, comme Frédéric, que tout est réalité. Hein. Qu'on parle de quelque chose qu'on nous raconte, d'une expérience personnelle. À partir du moment où on est traversé par une envie d'histoire, c'est de la réalité. Mais par contre, je suis convaincu qu'il y a une grande exigence de vérité de la part des gens qui consomment de la culture, mais que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui nous fascine, c'est quand même la transformation de cette réalité. C'est-à-dire que ce qui nous fascine dans un livre ou dans un film, c'est que c'est ce que l'auteur, celui qui signe, va faire de cette réalité. C'est quand même pour ça qu'on se déplace, qu'on achète, qu'on achète un ticket de cinéma ou un livre, c'est pour voir le point de vue, en fait. Donc sans point de vue, la réalité n'a pas... Enfin, c'est même pas qu'elle n'a pas d'intérêt, c'est qu'elle est très anxiogène. C'est les faits, voilà, donc c'est terrible. Donc on a besoin d'un point de vue sur cette réalité. Je pense que c'est l'union des deux qui crée la culture, en fait.
Manou.
Frédéric Becbédé, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, travailler le réel, est-ce que ça serait aussi, au fond, un moyen de ne pas compter que sur soi, c'est-à-dire une solution pour écrire. Je pense par exemple à Emmanuel Carrère qui raconte comment à un moment donné il a eu une grosse panne et que son éditeur lui a dit « Écris une bio, ça va te remettre, ça va te remettre à l'écriture » et donc ça a donné la biographie de Philippe K. Dick. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre ?
Oui, mais alors ce qu'il y a de bizarre, c'est que finalement je prends une histoire, là en l'occurrence la biographie de Salinger, son histoire d'amour de jeunesse puis la guerre, qui va le séparer de cet amour. Et puis en même temps, c'est là, alors là encore un handicap, je me remets moi dans le livre. C'est-à-dire que ça m'a été reproché, c'est assez bizarre, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être présent? Et je pense dans le cas d'Emmanuel Carrère, c'est aussi son cas. Chaque fois, on dirait qu'il essaie de parler de quelqu'un d'autre, puis que quand même, il se sent obligé d'être dans son livre. Et je crois que c'est simplement pour... c'est pas justement du narcissisme, c'est plutôt de l'humilité, justement. C'est de dire, écoute, je crois pas que je vais arriver à raconter cette histoire sans vous dire exactement que je suis assis là et que j'ai beaucoup de mal à la raconter et que je me gratte la tête et que je me demande pourquoi je parle de ça. Et donc, c'est plus une forme d'honnêteté et c'est encore une fois peut-être l'irruption du réel, effectivement, de dire, bon, ben, la réalité, c'est que nous sommes en 2014 et que je me demande pourquoi je suis si fasciné par les années 40. Qu'est-ce qui fait que moi, qui n'ai pas connu la guerre, j'ai envie d'en parler aujourd'hui? C'est un peu un jeu avec le lecteur aussi, de se dire, voilà, je vais vous prendre par la main, bonjour, je m'appelle Frédéric Becbédé, c'est moi, je ne suis que moi, et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous raconter cette histoire.
De sûrement vous parler de victoire quand vous signiez votre premier roman, qui était votre cinquième livre, Comme une bête, en 2012. Ça voulait dire que vous vous sentiez sous la protection de l'enquête auparavant, pour parler de victoire en signant un premier roman pour le cinquième livre.
C'est moi qui ai dit victoire ?
Ouais.
Par ailleurs, moi, je ne fais pas vraiment de différence entre ce qui a été qualifié de premier roman et le reste. Hein. En plus, je crois que si j'ai pu écrire ce premier roman, entre guillemets, c'est précisément parce qu'il y avait tout ça avant. Non. J'ai toujours considéré, moi aussi, que je n'avais aucune imagination. Et donc, pour moi, la captation... Alors, donc mon premier roman, je me suis prise moi-même comme sujet, parce que, à la rigueur, c'est ce que je connais le mieux, donc ça me semblait être le plus facile. Le deuxième roman, deuxième livre, je me suis attaquée à NTM, quelque chose de très proche de moi. Bon, j'avais le sentiment que je n'avais rien précisément à raconter, que je n'avais pas d'imagination, mais que, comme le disait Cédric Kahn tout à l'heure, ma seule légitimité pouvait être celle du regard, d'un certain regard, et surtout de la précision. Je me disais que ce qui pouvait donner de l'intérêt à mon travail, en tant qu'il n'était qu'une captation du monde, c'était un regard singulier. Et moi, ce qui m'intéresse dans un livre, c'est précisément le sentiment de la première fois. Pourquoi est-ce qu'on arrive toujours à lire aujourd'hui des romans d'amour et ça nous plaît, alors qu'on en a lu 850 000 ? Parce que ce qu'on cherche, c'est le sentiment de la première fois, de la première saisie de quelque chose qui peut paraître extrêmement banal, que tout le monde a vécu, qu'on connaît par cœur. Par exemple, une histoire d'amour. Ou par exemple, moi, quand je vais à la Gare du Nord, qui est un lieu arpenté tous les jours par des centaines de milliers de gens, est-ce que je vais arriver à saisir cette gare comme si c'était la première fois qu'elle était regardée? Bon, voilà, c'était un peu ma ligne. Et ma bascule dans le roman, elle s'est faite à partir de cette assise documentaire. C'est-à-dire que le premier roman que j'ai publié donc, il y a 2 ans, qui s'appelle « Comme une bête sur un boucher », ça a commencé par une enquête, une immersion très longue dans le monde de la boucherie, à Rungis, avec les éleveurs de bestiaux, avec des bouchers, avec des négociants en viande, etc. Et dans ce rapport obsessionnel à un certain réel, le monde de la viande, et je pense que c'est vraiment lié à cette obsession, l'idée d'avoir... de devenir dingue avec son sujet, de penser qu'à ça, d'avoir le nez tout le temps dessus, on se met dans une espèce d'état de transe ou de rêverie, je pense qui est assez propre aussi à ce monde-là, parce que quand vous vivez comme ça pendant des jours avec des carcasses de viande sanguinolentes dans des frigos, il fait moins 10, vous pouvez vous mettre dans des drôles d'états. Et je pense que cet état de transe dans lequel je me suis mise, que je ne soupçonnais pas au début, m'a permis de basculer dans la fiction, c'est-à-dire de comprendre qu'à partir d'un réel très prosaïque, on pouvait creuser quelque chose de l'ordre du fantasme, de la fantasmagorie, des images mentales, d'émotions, de sensations, et voilà comment ça s'est fait d'une certaine façon.
Manu ?
Quand vous adaptez Feu rouge de Simenon, Cédric Kahn, vous dites que vous vous sentiez sous la protection d'un livre. Est-ce qu'il y a quelque chose du même ordre à travailler le fait divers comme vous l'avez fait ?
Oui, c'est pareil. Le sujet est... Oui, je me sens protégé par le sujet. Je me dis que c'est pas moi, je parle de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a une espèce de plongée en apnée dans un sujet, qu'on devient obsédé par le sujet. Et je pense qu'effectivement, enfin moi, je sentis qu'à chaque fois qu'à travers un fait divers ou un livre, je me cherche moi-même. Hein. C'est-à-dire que je finis par découvrir quelque chose sur moi qui se révèle pas dans l'obsession, justement. Et donc j'ai le sentiment de révéler quelque chose de l'histoire que je raconte. Parce qu'il me semble qu'à travers la fiction, on peut faire émerger une forme de vérité sur les personnages, sur le ressenti, sur l'intime. Ce que la réalité ne donne pas, parce que la réalité, c'est comme c'est une chose objective, froide. Et dans cette vérité des protagonistes, de ceux qui l'ont vécu, on découvre aussi des choses sur soi. En tout cas, on découvre pourquoi cette chose nous intéresse et nous fascine.
Et par rapport à ce travail documentaire, pourquoi pour Roberto Zucco, vous vouliez rester dans votre bulle de fiction et ne pas rencontrer les protagonistes ? Et dans le cas de La Vie sauvage, vous avez procédé à l'inverse.
Ben, je progresse. Non, mais voilà, c'est justement l'idée de dire...
Il y a un progrès là-dedans.
Oui, c'est-à-dire que l'idée de... D'abord, c'est les circonstances. Il a fallu que j'aille négocier les droits avec eux. Donc, les circonstances ont fait que j'ai dû... Oui, mais voilà, donc je suis parti des circonstances et je me suis dit, ça va me permettre de faire une autre expérience. C'est-à-dire de rencontrer les protagonistes du fait réel et de pas en avoir peur, de pas m'en protéger, et au contraire de m'en nourrir. Oui, donc c'était comme une évolution. Je me dis, quitte à repartir sur la même forme de cinéma, autant le faire différemment. Et puis sur Roberto Zucco, j'avais rien traité du point de vue de Roberto Zucco. C'était un film qui était traité, un personnage qui était traité que par la périphérie. Alors que là, je me suis installé à l'intérieur du fait divers, c'est-à-dire avec les personnages en cavale. Donc pour moi, c'était pas du tout la même démarche.
À nous.
Est-ce que travailler le réel, c'est aussi attaquer un petit peu le statut de l'auteur tout-puissant qui prendrait tout en charge, hein, je pense plus particulièrement au cinéma, cet auteur dont vous dites, Cédric Kahn, qu'il est en train de mourir, justement, cet auteur tout-puissant. Ouais, vous en avez dit des choses, hein, les uns les autres.
Il faudrait arrêter de parler à un moment donné. C'est vrai, ce serait beaucoup plus facile.
Non, mais je suis même pas d'accord avec moi-même, parce que je redis, je pense vraiment que c'est le point de vue, quoi. C'est-à-dire que la réalité en soi n'a pas d'intérêt, ce qui... Enfin, moi, vraiment, comme spectateur, alors je ne parle pas comme cinéaste, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui me raconte cette histoire. Mais effectivement, peut-être que l'auteur, dans le sens d'autobiographie ou d'autofiction, c'est une chose qui... Peut-être ça devient un espace trop petit, quoi. Je pense que c'est encore plus fort quand un auteur, un cinéaste, un écrivain peut prendre en compte sa réalité, mais aussi à travers la réalité d'un autre.
Frédéric Becbédé, c'est exactement ce qui est en jeu dans votre littérature.
Oui, je pense que ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est qu'ils parlent tous les deux d'obsession et qu'au fond, on se laisse habiter par un sujet. Et c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de vivre, peut-être pour la première fois avec ce livre-là sur Salinger et Una et la guerre. Parce que peut-être que c'est pas un livre sur eux, c'est un livre sur comment je n'arrive pas à devenir adulte et je n'arrive pas à être un homme. Et que du coup, en étudiant les témoignages, en lisant beaucoup de livres d'histoire sur des tas de choses que j'ignorais sur le débarquement, par exemple, je me souviens d'une nuit où j'avais regardé des documentaires épouvantables et tout ça, et j'ai rêvé que je faisais le débarquement, ce qui est complètement dingue. Et donc, j'ai raconté ça à des confrères écrivains qui se foutaient de ma gueule et qui disaient que jamais je pourrais écrire là-dessus et tout. Et puis finalement, en fait, c'est à force d'étudier un truc, on devient effectivement un petit peu dans un état bizarre, de transe ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai commencé à écrire ces chapitres-là sur la guerre qui sont pas du tout, qui ont rien à voir un peu avec le reste du livre et qui n'étaient pas prévus, en fait. Et puis... Et donc, ça fait que je ne sais pas si je suis devenu un homme, mais enfin, j'ai eu l'impression de faire la guerre.
Cédric Kahn ?
Et cet état de fusion, il est presque nécessaire. Hein. Moi, je sais que si je ne suis pas totalement en osmose avec le sujet que je raconte, obsédé, et que je deviens lui, en fait, au point de m'oublier moi, je ne peux pas le faire, en fait. J'en ai besoin pour avoir l'énergie de mener le projet à bien.
Il y a une façon autre aussi de comprendre cet intérêt des artistes pour le récit documenté ou la fiction documentée ou on va dire l'exofiction qui regroupe toutes ces manifestations, c'est peut-être la volonté, je ne sais pas, je vous pose la question, des romanciers, des cinéastes, de ne pas se laisser confisquer l'histoire par les historiens ou de ne pas se laisser confisquer le réel par des commentateurs institutionnels, les universitaires, les politiques. En tout cas, c'était une théorie qui avait été avancée par Thomas Clair dans un hors-série de la revue Inculte sur cette question du réel et de la fiction. Frédéric Becbédé.
Ça, je suis entièrement d'accord, parce que c'est vrai que j'ai souvent pensé qu'une des missions, si jamais le roman pouvait avoir une mission, c'est le dernier endroit où on peut faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas écrire dans les journaux, parce que les journaux dépendent beaucoup de la publicité, par exemple, on ne peut pas écrire sur la publicité totalement librement, alors qu'on peut le faire dans un roman. Et c'est vrai que le roman est un endroit de liberté, et où on peut. Et chaque fois que je commence un livre, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai jamais lu, quelque chose qu'on puisse pas raconter ailleurs que dans un livre.
Mais c'est plus que ça, hein. Plus que la liberté d'oser parler de quelque chose dont on n'aurait pas le droit ailleurs, c'est de ne pas se laisser confisquer le réel par ceux qui le traitent généralement.
Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, mais je peux parler que de. Oui. Par exemple, pour le cas du dernier, ce qu'il y a dans le livre est déjà dit dans les essais historiques, mais pas de cette façon-là. Et puis, les informations que j'ai glanées un peu partout, elles n'ont pas été rassemblées dans le même endroit. Donc, effectivement. Et puis aussi, en tant que romancier, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre que les biographes. Un biographe doit absolument respecter chaque. Enfin, il ne peut pas écrire quelque chose d'inventé ou d'imaginaire ou de fictif. C'est la définition de son métier, il n'a pas le droit. Alors que, je prends un exemple, moi je peux imaginer la rencontre entre Chaplin et Una. Je peux imaginer les phrases qu'ils prononcent, où ils sont, comment ils se parlent, qu'est-ce qu'ils boivent. Ça, on ne peut pas le faire quand on est uniquement un mémorialiste, voyez, un biographe professionnel.
Sûrement sur ce rapport de force presque avec historien, universitaire ou politique.
Moi, je ne parlerai pas de rapport de force ou de confiscation parce que je ne vois pas la littérature ou le cinéma ou l'art en général comme une guerre contre quelque chose et certainement pas une guerre contre je sais pas, les médias, la parole politique. Je pense qu'il y a une multiplicité comme ça de paroles qui cohabitent. Donc, je ne le vois pas dans un rapport guerrier. Mais en revanche, là où je suis d'accord, c'est ce que je trouve intéressant dans le cinéma ou la littérature, mais dans les autres arts aussi, mais là on parle de ça, c'est de pouvoir à la fois combler des trous et en créer d'autres. Par exemple, quand Cédric Kahn traite un fait divers, tout à l'heure vous disiez que vous vous mettiez au milieu, quoi, au milieu de la cavale, au milieu de la sauvagerie et dans la tête des personnages. Et c'est comme si le cinéma permettait, enfin votre film permettait d'accéder à une dimension en 3D, alors que le fait divers, lui, c'est une dimension, c'est plat, c'est un fait divers, voilà, des faits divers, les mots sont très, très importants. Et le film, tout d'un coup, donne de la profondeur et va remplir des trous psychologiques, des trous narratifs, qui sont pas seulement de la fantaisie, qui sont aussi la possibilité d'une compréhension, ce que j'appelais la vie tout à l'heure, quoi. Parce que ce que j'appelais la vie, c'est ce réel, tout d'un coup, qui est rendu compréhensible, visible, et où quand, par exemple, Clara Dupont-Monod, là, en cette rentrée littéraire, fait un livre sur Aliénor d'Aquitaine, elle remplit les trous laissés par les historiens avec cette fantaisie, cette liberté dont parlait Frédéric, d'inventer, qui n'est pas pure invention, qui est aussi compréhension. Et après, l'autre, donc comme ça, combler des trous, mais aussi en créer d'autres. C'est ça qui me plaît, c'est-à-dire qu'on peut écrire sur un fait divers. Et au lieu d'expliquer ce fait divers par les profils psychologiques, par exemple, des protagonistes, on mettra du trouble. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais au cinéma ou quand je lis un livre, c'est pas seulement qu'on me rende le monde plus intelligible, c'est aussi qu'on me le rende plus trouble, plus opaque, que les choses soient plus compliquées que ce qu'on pense, que les explications psychologiques données par des experts dans les tribunaux soient invalidées par des romans qui diraient que, par exemple, les salauds peuvent être des êtres sublimes et aimables. Enfin bon, d'essayer de complexifier les choses. Donc voilà, je dirais qu'il y a creuser des trous et en boucher d'autres, là où effectivement l'actualité, la parole politique, la parole judiciaire, la parole des experts en tout genre, la parole psychiatrique, des paroles qui peuvent être parfois normatives, soient troublées par la création.
Rican ?
Ouais, pour moi, il n'y a pas de rivalité, on n'est pas du tout au même endroit, on est sur un niveau beaucoup plus sensoriel, émotionnel. Je pense que c'est ça l'attente, c'est une relecture de la réalité, mais sur un point de vue beaucoup plus intime. Donc pour moi, je ne me suis jamais dit que des historiens ou des journalistes ou des commentateurs de la réalité était sur le même terrain que nous.
Manu.
Peut-être en renversant alors la question que posait Laurent, est-ce que c'est pas tant que les écrivains ou les cinéastes aient repris la parole, mais peut-être que tous ces commentateurs leur ont laissé, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'affaiblissement du monde intellectuel, de ces commentateurs, des universitaires, des sociologues, de ceux qu'on entend habituellement commenter le réel, hein, qui auraient un petit peu, disons, laisser du terrain ou abandonner la
surtout
place.
Surtout, moi, je pense qu'il y a un grand, grand besoin de fiction. C'est-à-dire que même si on assiste à un procès, par exemple, où les faits restent les faits, on voit bien que les deux avocats vont nous raconter deux fictions différentes pour essayer de créer de l'empathie et de l'identification soit à la victime, soit au bourreau. Donc, je pense qu'on a un besoin quasiment vital de fiction. C'est de l'oxygène, en fait. Sinon le monde est trop angoissant. La réalité vraie, elle a besoin d'être réinterprétée. Sinon, elle est trop anxiogène.
J'abonde dans son sens en ajoutant humaniser les choses. Parce que l'écrivain, le romancier et le cinéaste suivent un personnage ou plusieurs personnages, mais ils humanisent un fait. Si je prends l'exemple de Windows on the World, moi j'avais, comme tout le monde, été frappé par la tragédie du 11 septembre, mais c'était une statistique. C'est-à-dire on sait qu'il y a 3000 morts et puis on voit des immeubles s'effondrer et on a l'impression que c'est très, finalement très froid, très distant. Et le fait de suivre un personnage qui va petit déjeuner commander un jus d'orange ce matin-là dans un restaurant en haut d'une tour et de minute après minute de suivre cet humain, ça donne peut-être, ça permet d'entrer dans ce qui est complètement distancié et froid et d'en faire quelque chose de touchant. Et je pense que c'est un peu ça le boulot des artistes.
Justement.
Oui, aussi pour aller dans ce sens, je pense que la question, c'est précisément celle de l'incarnation. Le but est l'incarnation d'une réalité. Or, effectivement, la parole politique, la parole des experts sur les plateaux télé est toujours une parole de la désincarnation, une parole de la généralité. Là aussi, c'est une banalité de le dire, mais il y a un appauvrissement de la langue politique assez critique. Et pour moi, cet appauvrissement, il passe précisément par la désincarnation. C'est-à-dire qu'un homme politique, quand il commence une phrase, 9 fois sur 10, c'est « les Français ». Les Français pensent que, les gens ressentent ça. Les Français, les gens, évidemment, ça n'existe pas. Et aucune parole d'incarnation ne peut commencer par « les Français pensent que » ou « les gens ressentent ça ». Donc, je pense que ce qu'on fait est précisément de retrouver de l'incarnation. Et ça passe pas forcément par un personnage unique. Ça peut être l'incarnation, elle peut être collective. Finalement, cette journée-là aujourd'hui est le symptôme de ça. Moi, je lis cette journée comme un détournement face aux experts et à la parole experte, qui est une parole qui effectivement sature l'espace médiatique. Ça, c'est certain que c'est étonnant de voir qu'il y a de plus en plus de chaînes, de radios, de lieux d'expression et de moins en moins de gens qui s'expriment. C'est-à-dire que c'est 4-5 personnes qui circulent. Donc il y a une espèce de resserrement de la focale. Et en ce sens-là, je pense que les livres et les films permettent de remettre un peu d'air.
Oui,
mais ce qui est plus sain dans le cadre de la fiction, c'est qu'elle est revendiquée comme de la fiction.
Sur des faits réels.
Oui,
c'est toujours
nous, tout autant
au début
qu'on
est,
qu'on fasse des films ou des livres, on revendique de faire des objets subjectifs. Alors ce qui est plus gênant dans la parole politique, c'est que souvent, il y a énormément de subjectivité, mais qu'elle prend la forme de la vérité, de la réalité. Donc moi, je trouve là où il y a manipulation, où commence à y avoir un malaise, pour moi, c'est quand il y a une espèce de confusion entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que quand la fiction n'est plus assumée, et je trouve que, j'extrapole, mais si le révisionnisme ou les complotistes du 11 septembre, tout ça, finalement, ils fabriquent de la confusion entre la réalité et la fiction.
L'intervention de Manu il y a quelques instants faisait écho en fait à ce que disait Éric Villard, qui d'ailleurs signait quelque chose qui n'est pas loin non plus de cette littérature documentée, qui mettait en relation véritablement l'inflation de ce que l'on peut voir aujourd'hui traité par les artistes, les cinéastes, les romanciers, avec ce qu'il appelle depuis quelques années, peut-être une vingtaine d'années, le déficit de la parole, pas simplement politique, parce que ça s'est entendu, mais surtout de la parole même des intellectuels. Comme si aujourd'hui, retravailler le réel, c'était, alors peut-être pas un combat mené par les artistes, mais véritablement prendre la place vacante laissée par les intellectuels et que l'artiste était, oui, Frédéric Becbédé ?
Ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que le terme intellectuel, c'est un terme ironique au départ. Hein. C'est pas forcément une bonne nouvelle d'être un intellectuel. Et je trouve
c'est pas forcément une mauvaise non plus.
Non, mais c'est-à-dire que je crois que quand on écrit un roman, même quand on écrit un roman sur la réalité, on est un naïf, on est un peu innocent, on est même un petit peu con. Il faut être un peu bête. Il faut être un peu bête pour avoir envie de suivre quelqu'un, et curieux, s'intéresser un peu, regarder le monde avec une certaine hébétude, un étonnement, je crois. Ça, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, les experts en question, les gens qui travaillent sur des faits, des statistiques et des documents. Et c'est des gens qui, peut-être, qui n'ont pas le temps d'être un peu naïfs. Moi, je pense, en tout cas, à chaque fois que je raconte une histoire, je m'imagine un peu ce que j'aurais fait, mais sans la moindre expertise.
Moi, je suis très touché par ce que dit Frédéric, parce que je pense qu'effectivement, dans la fiction, il ne faut pas se mettre au-dessus de ce qu'on raconte. Il ne faut pas être supérieur. C'est ce qui est très touchant, par exemple, dans le livre de Florence Aubenas sur Ouistreham, c'est qu'elle devient une femme de ménage. C'est-à-dire qu'elle ne nous raconte pas avec condescendance le destin de ces femmes de ménage. Elle se met littéralement à leur place et elle le devient. Et elle veut devenir la meilleure femme de ménage. C'est-à-dire qu'elle rentre aussi dans le défi d'arriver à nettoyer le bungalow en une heure alors qu'il lui en faudrait une heure et demie, etc., etc. C'est cette fameuse identification, fusion avec le sujet qu'on attend de quelqu'un qui fait de la fiction à partir du réel. Et c'est ça qui nous touche. Et je crois très fort en ce qu'il dit, qu'effectivement, il faut être très au niveau de ce qu'on raconte.
Très sûrement. Hein.
Pour revenir sur l'hypothèse d'une défection des intellectuels, évidemment, moi j'ai le sentiment que l'espace public est déserté par la parole des intellectuels, ou alors je dirais des philosophes par exemple, pour être plus précis et prendre un vrai métier. Évidemment que je ne comprends pas pourquoi quand j'allume la télé, c'est Zemmour qui parle et pas Jacques Rancière par exemple. Après, on a tendance à accuser les médias. C'est un peu comme les Français, les médias, de ne pas leur laisser de place. Mais moi, je me demande si ce n'est pas aussi un problème lié aux intellectuels eux-mêmes, aux penseurs eux-mêmes. Et ça reviendrait à ce que disait Frédéric sur ce mot d'intellectuel qui a beaucoup de casseroles. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport, je trouve, de mépris du monde intellectuel à l'égard de l'expression médiatique, qui serait un lieu un peu sale. Je veux dire... Deleuze que je vénère et qui n'était pas un penseur de la pureté, il crachait sur la télévision, il disait qu'il y foutrait jamais les pieds, que c'était immonde. Enfin bon, Guy Debord, même Bourdieu. Enfin, donc il y a moi je leur en veux un peu justement d'être dans ces positions de puristes, de penser le contemporain, mais en restant un peu comme ça sur le côté. Je pense qu'il y a un vrai problème et qui n'est pas juste les méchants médias qui invitent que Zemmour.
Frédéric Becbédé, là-dessus.
Ouais, moi j'y vais dans les médias, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est dangereux, c'est souvent on est ridicule.
Mais
souvent
qu'il fallait justement que les intellectuels laissent de côté. Ça,
non, mais je
abandonne le terrain.
Bah, évidemment que c'était une position un peu puritaine et morale vis-à-vis de cette arène, de cette espèce de mascarade. Et on peut pas écrire la société du spectacle et en même temps aller à la télé parader. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait ce que dit Joyce Ormond. Je trouve que cette désertion laisse l'espace peut-être à des voix. Disons un peu plus populiste, voilà, le puritanisme conduit au populisme, c'est ça la réalité où on est aujourd'hui, donc il faudrait peut-être être un peu moins puritain.
À nous.
Oui, je voudrais revenir, pardon, je reviens à l'intitulé de la table ronde, Cédric Kahn, quand vous disiez qu'on n'a jamais eu autant besoin de fiction, on pourrait aussi dire tout autant, on n'a jamais eu autant besoin de réel, hein. Je pense à l'inflation des documentaires. Il n'y a jamais eu autant de documentaires qui sortent en salle, hein, ce qui est quand même aussi un signe. Plus, évidemment, les livres dont on vient de parler, en particulier les livres de Joyce Ormond. Est-ce que vous n'avez pas aussi ce sentiment-là du réel, hein, qui commence à un peu
Non, moi, je mets pas de... Je ne sais pas si on a plus besoin de fiction qu'avant ou après, mais je sais qu'on a besoin de fiction. C'est sur ça que j'insiste. Mais je pense qu'on en a besoin de tout temps. C'est un besoin vital. Et je pense que même un bon documentaire, il est fictionné, en fait. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire de quelqu'un. On crée de la subjectivité, on crée de l'empathie. S'il n'y a pas cette empathie pour l'objet du documentaire, le documentaire ne fonctionne pas. C'est plus dans ce sens-là. Après, je pense qu'effectivement, mais ça c'est ce qu'on a dit au tout début, il y a une exigence de vérité. C'est-à-dire que même moi, quand j'invente une histoire, quand ce n'est pas tiré d'un fait divers, j'enquête, je vais à la rencontre de gens qui ont vécu des expériences similaires, parce qu'effectivement, je sens qu'on ne peut plus tout à fait raconter n'importe quoi. Je ne sais pas si pourquoi cette exigence a monté, mais je sens que c'est très fort de la part des gens qui regardent. En tout cas, quand on discute avec le public après une projection d'un film, j'imagine à des signatures, dès qu'il y a des choses invraisemblables, les gens sont extrêmement gênés.
Comment vous comprenez tous, en fait, cette inflation, même si le terme d'inflation a été beaucoup prononcé aujourd'hui, cette inflation du documentaire, c'est-à-dire le documentaire tel qu'il est, au cinéma, le documentaire qui vient nourrir le travail de fiction et qui vient faire bouger l'écriture. Comment vous comprenez ça actuellement ? Parce que c'est quelque chose qui s'impose depuis 2 ou 3 années, ça, au cinéma. Il y a toujours, vous me direz, il y a toujours eu des documentaires. Mais qu'aujourd'hui, ce soit vraiment un genre cinématographique, ça veut quand même dire quelque chose.
Moi, c'est l'émotion, personnellement. C'est vrai que quand dans le film sur Rodriguez, là, le musicien disparu... Comment il s'appelle, pardon ?
Et ça, c'est une fiction extraordinaire.
C'est un documentaire, mais ça devient une fiction.
Sugarman.
C'est une histoire vraie, mais oui. C'est une fiction extraordinaire. Oui. C'est parce que c'est une fiction extraordinaire qu'on adore cette histoire vraie. Ça, c'est vraiment l'exemple même.
Et quand on commence le film en apprenant qu'il s'est peut-être suicidé, et puis finalement, on apprend qu'il est vivant, et puis ensuite, on le voit, évidemment que c'est... Le réalisateur se fout de notre gueule. Il sait depuis le début qu'il est vivant, et il nous a fait marcher. C'est pour nous faire pleurer à ce moment-là. Et quand il monte sur scène à la fin, tout le monde chiale dans la salle. Donc le type a fait un travail assez malhonnête et en même temps, on en sort ébloui.
On le remercie de cette malhonnêteté.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça, c'est un peu le contre-exemple du
exactement,
du documentaire.
Mais il a choisi le contre-exemple
vraiment,
parfait.
Parce que quand on regarde la plupart des documentaires qui sortent aujourd'hui, je pense qu'il y en a 80% qui sont sur le travail, sur le monde du travail. Et j'imagine que c'est plutôt à cela que vous faisiez référence. Après, c'est évidemment lié à la situation de crise économique et de détresse sociale. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas corréler les deux. Alors, il ne s'agit pas forcément de demander aux artistes d'endosser un habit social, de prendre en charge des questions sociales et politiques une fois de plus. Je pense que c'est plutôt face à une crise économique, politique, sociale, etc., le geste de la mettre en scène au cinéma, c'est pas pour moi d'abord un geste militant, regarder comme ça va mal, regarder comme les politiques s'en occupent pas. C'est plutôt d'essayer de sauver ces situations de détresse là où elles peuvent être sauvées, c'est-à-dire d'essayer de les comprendre un peu plus, d'essayer de faire surgir de la beauté ou de l'émotion de ça. Il y a aussi beaucoup de documentaires sur les questions migratoires, les sans-papiers, etc. Donc... évidemment qu'il y a l'idée de nous obliger à regarder un état de crise qui signe un malaise du pays. Mais je pense qu'il y a aussi, je reviens, désolé à mon obsession, ma marotte de vie, mais l'idée de montrer que de ces situations-là, on peut faire naître des vies, des existences qui nous font appréhender les choses différemment et les appréhender aussi de manière esthétique. Et je ne pense pas que ce soit condamnable de faire se rencontrer, par exemple, l'esthétique et un monde du travail dur. Je ne crois pas que ce soit moralement condamnable. Je pense que ça a une vertu d'empathie, en fait. Ça me semble être le bon terme, l'empathie, c'est-à-dire avoir un regard empathique avec une certaine détresse. Et il ne s'agit pas de régler le problème, il s'agit déjà de convertir un peu son regard sur les faits.
Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
On domine par la culture, on résiste par la culture.
Merci à nos invités, Joyce Ormond, Frédéric Becbédé, Cédric Kahn. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
On est obligé d'avoir une lecture politique là où le corps chasse le langage. Ce n'est pas du verbiage, c'est exactement ce qu'on va faire.
Demain, le pouvoir a-t-il quitté la scène? Ça sera la quatrième table ronde enregistrée en public depuis le musée d'Orsay à Paris avec la romancière Geneviève Brisac, le cinéaste Pierre Scholler et la photographe Isabelle Bocon-Gibaud. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard format table ronde, une émission préparée par Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, à la réalisation Olivier Guérin, à la prise de son Bernard Legac, Frédéric Cayrou et Hervé Dubreuil, chargé de production Franck Malabry. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours ou la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon réveillon à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre sur France 5.